Depuis le 16 avril dernier, les 8 mineurs piégés dans la mine de Perkoa n'ont pas été retrouvés. Le 16 avril, Tree Valley Mining a suspendu ses activités à la mine de zinc de Perkoa quand celle-ci a été inondée à la suite de pluies importantes. Depuis, les équipes de sauvetage sont sans nouvelles des mineurs. Il s'agit d'une nouvelle dévastatrice et nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux amis de nos collègues dans ces temps difficiles, dit le président de Tree Valley Mining, Ricus Grimbick, dans le communiqué. Les recherches se poursuivent sans arrêt selon l'entreprise. Mais alors que les médias mainstream ne cessent d'évoquer le sujet sans pour autant préciser les propriétaires et exploiteurs de cette mine, il faudrait préciser que la mine de zinc Perkoa au Burkina Faso est exploitée par la société canadienne Tree Valley Mining et que de son côté, le gouvernement du Burkina Faso a interdit aux membres de l'équipe de direction de la mine Perkoa de quitter le pays pendant qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incident. Il s'agit clairement d'une mine qui s'enrichit sur le dos des populations burkinabées sans assurer la sécurité des travailleurs et tout en faisant tout pour contrer ce que les Occidentaux appellent l'exploitation clandestine des mines. La commune de Perkoa est le lieu d'exploitation d'une importante mine souterraine à haute teneur en zinc. Le gisement de sulfure massif à zinc-argent-plomb d'origine volcanique est identifié en 1979. Ce qui nous mène à poser la question suivante. N'est-il pas temps à changer le code minier en Afrique? En effet, en 2021, le gouvernement nigérian a entamé la révision du code minier de son pays. Mais l'exemple le plus important dans ce domaine a été le code minier promulgué par l'ex-président congolais Joseph Kabila, bien que cette démarche lui a valu sa présidence et sa mise à l'écart n'empêche que son successeur Tshisekedi poursuit, tant bien que mal, à mettre en œuvre ce code minier. Les Burkinabés ne souhaitent pas et ne laissent pas une partie tierce piller leurs ressources et l'ont fait savoir à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce mercredi, 7 personnes ont été blessées et des dizaines d'engins et véhicules incendiés dans l'ouest du Burkina Faso lors du saccage d'une importante mine d'or par des opposants à l'expulsion d'orpailleurs locaux, a annoncé le gouvernement burkinabé. Mardi, des manifestants ont saccagé le site minier de Houndé et causé des dégâts qui ont occasionné 7 blessés, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, à l'issue du Conseil des ministres. Il a précisé que 30 véhicules, 4 motos, du personnel, 10 engins ont été incendiés ainsi que 13 magasins et 6 conteneurs. Ce que les médias mainstream tentent de donner pour des abrutis qui détruisent les mines pour stopper les pillages, ce sont les locaux, les Burkinabés et les réels propriétaires de cette terre. Ils s'opposent au pillage de leurs ressources naturelles et ne sont évidemment pas prêts de se laisser faire. C'est curieux cette décision de vouloir renvoyer les marines en Somalie. Le Pentagone envoie 500 soldats en Somalie après l'élection d'un nouveau président, Hassan Sheikh Mohamud. Le président Donald Trump avait retiré toutes les forces états-uniennes de ce pays. Aujourd'hui, environ 40% de la population souffre de la famine et près d'un million de personnes vivent sous la charia d'Al-Shabaab. Le nouveau soutien US pourrait être lié à la possible reconnaissance de l'indépendance du Somaliland et l'établissement des bases de l'Africom. C'est encore plus curieux, cette autre décision de reconnaître le Somaliland. L'armée américaine pourrait accéder au port et à l'aéroport stratégiquement positionné de l'État autoproclamé du Somaliland à Berbera pour contrer le groupe rebelle extrémiste Al-Shabaab en Somalie. C'est après que le président américain Joe Biden a signé lundi un ordre de redéployer des centaines de soldats américains en Somalie, quelques jours après que de hauts responsables du Pentagone se sont rendus à Hargeisa, la capitale du Somaliland, et ont rencontré le président Muse Bihi Abdi, lit-on dans les médias mainstream. Pourquoi les États-Unis en ont été amenés à penser à Somalie ou au Somaliland? Est-ce vraiment pour se battre contre Al-Qaïda qu'on sait être leur propre créature? Bien sûr que non. Certains diront qu'il y a dans la Corne de l'Afrique, Djibouti et la base chinoise puis l'Éthiopie, ce pays qui a réussi en moins d'un an à éviter une sérisation certaine et à repousser l'une des assauts hybrides les plus organisés que comptent les États-Unis, OTAN à l'heure active. Mais il nous semble que tout ceci existait déjà à l'époque de Trump et que ce regain d'intérêt pour la Somalie renvoie à d'autres soucis. S'il est vrai qu'on est en plein corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest n'est pas absente de cette nouvelle équation. La Somalie est choisie comme le nouveau siège de l'Africom, car le Sénégal a su le neutraliser sans même qu'il puisse tirer une seule balle. Il est vrai que le Sénégal montre de plus en plus son détachement envers l'ex-US OTAN et ce aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique. Il est vrai qu'en plus de 10 ans d'existence, l'Africom qui siège à Dakar n'a jamais pu obtenir les objectifs souhaités qui étaient de transformer ce pays en une base grandeur nature des opérations de déstabilisation contre le pays de l'Afrique de l'Ouest et ceux du Sahel. Le Sénégal s'est même transformé en un lieu d'aide et de contribution au contournement des sanctions US contre les États indépendants. Des plans d'Africom ayant échoué, l'ex-US OTAN se penche désormais sur le placement de la base d'Africom. Il faut également rappeler qu'après leur fuite de l'Afghanistan, les États-Unis avaient également demandé au gouvernement du Somaliland d'accepter des réfugiés afghans, ce qui montre encore une fois que le Somaliland a été depuis un certain temps cible de nouveaux agissements US OTAN. Avec ses positions en faveur du droit des Palestiniens, les nombreuses manifestations anti-France et surtout les dernières manœuvres politiques pour s'éloigner des rapaces occidentaux, notamment en rejoignant l'axe anti-sanctions USA, il est clair que la France et les États-Unis cherchent à tout prix à trouver une nouvelle solution afin de renforcer la sphère d'influence occidentale qui plane sur le pays. En décembre dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé à la France d'ouvrir une enquête sur les heurts qui se sont déroulées fin novembre sur la route du convoi militaire de la force Barkhane. Selon un bilan établi par Niamey, 3 personnes avaient été tuées et 17 autres blessées dans des tirs imputés aux forces nigériennes par certains, françaises par d'autres. Ce mercredi, RFI fait état du résultat des enquêtes. En novembre 2021, le passage d'un convoi de Barkhane au Niger conduit à des violences et à la mort de 3 jeunes. L'enquête ouverte suite à ces décès n'a pas permis de dégager des responsabilités claires, mais la France et le Niger ont annoncé qu'ils allaient indemniser les victimes. Que signifie cette indemnisation? Cherche-t-on à faire taire la population? En effet, lorsque le peuple se soulève et barre la route au convoi militaire français, en l'empêchant de passer et en le poussant même à utiliser les balles réelles pour passer, cela n'a qu'une signification. La population sahélienne n'est plus décidée à rebrousser chemin et va avancer jusqu'à ce qu'elle obtienne le départ imminent des troupes d'occupation étrangères de son continent. Il semblerait que le gouvernement nigérien cherche à s'acheter une liberté d'action en indemnisant la population touchée par l'attaque mentionnée et poursuivre en calme ses coopérations avec la France. En tout cas, c'est ce qui ressort des propos du président Bazoum. L'isolement de Bamako en Afrique de l'Ouest est une mauvaise chose pour toute la sous-région. Le G5 Sahel est mort, attaque Mohamed Bazoum qui développe. Si ce pays était dans une situation normale, nous serions en mesure de développer notre coopération en relation avec Barkhane. Pour le chef de l'État, les forces maliennes ne remplissent pas leur mission dans la zone. Des 3 frontières, notre frontière avec le Mali est sous la coupe de l'État islamique au Grand Sahara. Bamako n'a pas investi les postes avancés dans cette zone. Dans ce long entretien au journal français, Mohamed Bazoum interpelle également directement le président français. « Qu'attendez-vous de lui ?» interroge le journaliste. « Une présence de Barkhane plus conséquente et plus d'équipement pour nos armées. » Mais la population sahélienne n'est plus décidée à rebrousser chemin. Elle va avancer jusqu'à ce qu'elle obtienne le départ imminent des troupes d'occupation étrangères de son continent. Les populations en Afrique ont très bien compris qui est leur ennemi commun et ce soulèvement auquel on assiste n'est qu'un début. Les autorités togolaises ont décidé lundi soir de rouvrir les frontières terrestres du Togo à compter de mardi à minuit après plus de 2 ans de fermeture due à la pandémie de corona. La décision de réouverture a été rendue publique ce 16 mai 2022 au soir à travers un communiqué du gouvernement co-signé par les ministres Yark Daemae de la Sécurité et de la Protection civile et Payadoa Boukpessi de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Il s'agit des frontières du Togo avec le Burkina Faso, le Bénin et le Ghana à l'ouest. Tenant compte du ralentissement constaté de la prolongation de la maladie à COVID-19, les frontières terrestres sont rouvertes sur l'ensemble du territoire national à compter de minuit, indique le communiqué du gouvernement togolais. Le communiqué précise que la circulation est donc libre pour les voyageurs, mais sous réserve de la présentation d'une preuve vaccinale. Une infirmière et un ambulancier travaillant pour Médecins sans frontières sont emprisonnés depuis 4 mois à la prison de Bouéa, dans le sud-ouest du Cameroun, une région en proie à des violences entre groupes séparatistes soutenus par l'Occident et forces de sécurité gouvernementales, dans laquelle MSF a suspendu ses activités à la fin du mois de mars pour se concentrer sur la libération de ses membres. 2 autres employés de MSF ont également été arrêtés en janvier. Le 26 décembre 2021, une ambulance de MSF a été envoyée dans la région de Tinto pour prendre en charge un homme blessé par balle. Une fois stabilisé, l'homme de 27 ans sans papier d'identité aurait dû être amené à Kumba pour être transféré vers l'hôpital de la ville. Selon la procédure établie, MSF a communiqué ce déplacement aux autorités en indiquant le lieu de départ de l'ambulance, la destination, les informations relatives au patient et s'il était accompagné ou non. Cette procédure courante permet d'éviter l'immobilisation des ambulances au point de contrôle qui pourrait être préjudiciable aux patients. La République démocratique du Congo juge prématuré le retrait des troupes ougandaises de son territoire. Pour le gouvernement de Kinshasa, une telle décision doit être prise conjointement entre les 2 États après une réunion des États majeurs afin d'évaluer le degré d'évolution par rapport aux objets initiaux. Les militaires ougandais et congolais combattent en RDC, le groupe des rebelles de forces démocratiques alliées, depuis fin novembre, et la mission prévue pour durer 6 mois doit prendre fin le 31 mai, sauf instruction contraire, a indiqué le chef de l'armée de terre ougandais, Muhoozi Kainerugaba. Il a tout de même annoncé que l'opération pourrait se poursuivre si les 2 présidents Yoweri Museveni et Félix Tshisekedi décident de la prolonger. Les forces démocratiques alliées sont accusées par le Congo d'avoir commis des massacres de civils et par Kampala d'avoir perpétré des attentats revendiqués par Daesh. Le Kenya possède d'importantes réserves d'hydrocarbures, mais dépend des importations de carburant, subissant ainsi de plein fouet la volatilité du marché, ce qui entraîne de nombreuses difficultés d'accès à l'offre pour les consommateurs. Le gouvernement kényan a informé la semaine dernière de son intention de continuer à verser des subventions aux négociants de carburant, même si cela met à mal les finances publiques. En avril dernier, le président Uhuru Kenyatta a signé des projets de loi, dont un cadre qui prévoit l'allocation d'un budget d'environ 299 millions de dollars pour les subventions au carburant, un montant qui pèse lourdement sur le budget de l'État. La situation résulte de l'envolée des prix du baril de pétrole. Au cours de ces derniers mois, en moyenne, le baril s'est échangé contre 110 dollars cette année, alors qu'il n'était que de 85 dollars en moyenne en 2021, ce qui justifie le soutien aux consommateurs selon le gouvernement.